Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission de Radio Ferrarock. Max de la radio RCV s'est emparé de la carte blanche cette semaine pour présenter Slalom, le nouvel album du duo lillois L'Objet. Interview à retrouver en fin d'émission. Le duo électropunk suisse Crème Solaire est une des découvertes Ferrarock. Le binôme présente leur troisième disque, Cemento, en deuxième partie d'émission. Et tout de suite, Yann de Canal B explore la pop de Satellite Jockey. Le groupe sort Plays Music, un nouveau terrain de jeu pour ses grands enfants que la Ferrarock soutient cette semaine.
La vie s'écoule sur le dos de ta main, puis s'étale en flaques calmes, comme des glaces sans teint.
Salut, c'est Yann de Canal B à Rennes. Cette semaine, dans l'émission Dig Dig Diggers, la Ferrarock vous fait découvrir l'album Satellite Jockey Plays Music, sorti le 1er mars sur le label Another Record. Discussion dans un instant avec Rémi Richard, fondateur et homme orchestre du groupe, après ce titre qui ouvre l'album. Bonne découverte. On va discuter pendant une petite vingtaine de minutes avec Rémi Richard, fondateur, compositeur, chanteur de Satellite Jockey à propos de Plays Music. Plays Music, on peut le prendre dans plusieurs sens. Vous jouez de la musique avec Satellite Jockey, Rémi, mais aussi le fait de jouer à la musique.
Ouais, c'était un peu... j'ai essayé de retrouver en fait dans ce disque, en enregistrant ce disque, les premières sensations que j'ai eues en enregistrant de la musique tout seul avec un ordinateur, et l'excitation d'empiler des pistes, de créer les arrangements en même temps qu'on compose la chanson. Et ça, c'est vraiment, enfin moi je m'amuse trop quand je fais ça, quoi. J'ai décidé qu'on n'enregistrerait pas ce disque en groupe et pas en live, et que je ferais tous les instruments tout seul, donc sauf la batterie, pour retrouver cet esprit des débuts du groupe où je faisais tout seul.
Quelques tâtonnements très empiriques au tout début de Satellite Jockey.
Oui, bah bien sûr. Ouais. Moi, j'ai commencé la musique plus ou moins en même temps que j'ai commencé le groupe. Donc, je savais pas jouer de basse, je savais pas spécialement chanter. C'était le cas pour d'autres membres du groupe aussi qui ont commencé la guitare. C'est leur première vraie expérience de groupe aussi, quoi. On a appris le métier tous ensemble.
Le titre qu'on écoutait à l'instant, un extrait en tout cas, c'était « Mouvement ». C'est un album qui bouge beaucoup, je trouve, d'une ambiance à l'autre, avec quand même une large place donnée à des morceaux instrumentaux. « Moonlight Walk »,« New Moon »,« Mouvement 2 »,« Clavino ». Voilà, l'envie de faire de la musique de film, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui pourrait t'inspirer prochainement ?
Déjà, c'est que j'adore écouter la musique de film. J'adore écouter cette musique instrumentale-là. Parce que c'est vraiment, je trouve, que les gens qui faisaient ça dans les années, surtout 60, 70, c'était vraiment à la croisée des chemins entre la musique classique, la pop et le jazz. Et ils ont vraiment composé des trucs de ouf, quoi. Et New Morricone, il y en a plein. Mais...
Je pense peut-être plus à François de Roubaix qu'à New Morricone. Est-ce que ce serait un de tes préférés ?
Ouais. Ouais, bah, j'aime bien aussi. Ouais. Mais en fait, c'est le fait de faire de la pop et de faire de la pop, mais qu'il n'y ait pas de chant, quoi. Que ce soit la mélodie, elle soit faite par un instrument. Moi, je trouve ça bien parce qu'on n'est pas obligé, quand on n'a pas d'envie d'écrire des paroles, on peut aussi ne pas chanter. Et je trouve ça très agréable à écouter. Et donc, j'ai voulu faire ça moi-même parce que vu que j'aime bien en écouter, je me dis que ça peut plaire à d'autres gens aussi.
Sur l'album précédent, le Weekend, en 2021, il y avait déjà pas mal de choses en français. Mais ça n'a pas commencé en français, l'aventure Satellite Jockey?
Ouais, non, ça a commencé en anglais. Et puis, comme pas mal de groupes de ces années-là, il y a quelques années, là, on a switché en français. Parce que en fait, quand on parle pas spécialement bien anglais, à quoi bon écrire en anglais, quoi. Au bout d'un moment, il faut assumer ses paroles et on maîtrise mieux ce qu'on écrit quand on parle la langue.
Depuis le début de l'histoire de Satellite Jockey, il y a quand même une petite poignée de 10, quand même plus d'une demi-douzaine. Considérable comme production, je trouve, en 12 ans d'existence. Tu as cette impression-là aussi que c'est beaucoup ?
C'était mon but à l'époque de faire un disque par an. Et puis j'ai pas spécialement de problème pour écrire des chansons. Il faut au contraire que je m'arrête un peu d'écrire des chansons parce que sinon je peux pas toutes les sortir et je suis un peu frustré. J'adore écrire des chansons. J'ai jamais trop de panne d'inspiration. Vu que j'adore ça, je le fais, quoi. Et ça fait plein de disques.
Écrire des chansons pour toi, Rémi, c'est écrire surtout la musique des chansons et les paroles viennent à la fin, à la toute fin de la composition ?
Oui, moi c'est plutôt la musique qui m'intéresse. Et les paroles, ça m'a longtemps un peu embêté d'écrire des paroles. Mais là, avec le passage au français, j'y ai un peu pris goût quand même. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Je commence à prendre goût et à apprécier d'écrire des paroles, quoi.
On pourrait croire, puisque la musique de Satellite Jockey est dans l'ensemble assez légère, assez joyeuse, en tout cas c'est l'impression que j'ai moi, que les paroles vont aller de ce côté-là aussi. Est-ce que parfois tu te forces pour donner un côté plus sombre aux paroles que celle de la musique ?
Non, bah déjà je suis content que vous trouviez que la musique est plutôt gaie, parce que c'est ce que j'essaye de faire. Et les paroles, non, je pense que je suis moins à l'aise pour écrire des paroles. Autant pour la musique, je peux un peu choisir où je vais et tout. Pour les paroles, c'est vraiment comme ça vient. Et ce que je peux faire, parce que j'ai pas un niveau d'écriture exceptionnel, je trouve. Et du coup, c'est vraiment ce que je peux faire. C'est un peu ce qui sort. Donc, si les thèmes sont plus sombres, c'est vraiment ce qui me passe par la tête, je pense. Et je pense que quand la musique est gaie, on peut se permettre de faire des textes plus dark. Je pense que ça marche assez bien.
La plupart des morceaux sont aussi légers, peut-être, que celui qu'on va écouter dans un instant, qui d'ailleurs s'appelle Légère. C'est quoi son histoire à celui-ci ?
Alors celui-là, dans la composition musicale, il est un peu à part, parce que je suis quand même bien classique. Enfin, quand j'écris des chansons, c'est quand même bien les accords, l'harmonie, et puis après la mélodie qui vient par-dessus. Alors que celui-là, j'ai juste allumé l'ordinateur et empilé un peu des petites lignes rigolotes. Et puis ça a fait une chanson au final, donc c'était vraiment très fun. Et puis pour les paroles, ça parle justement de moments de la vie, de conversations qui peuvent être un peu lourdes et de moments où on se sent pas à l'aise, de moments où on se sent pas à l'aise et de cette envie de se libérer de ça et que la vie devienne plus légère, quoi. De cette sensation de routine aussi qu'on a tous les jours, qui peut être un peu pesante. Comment faire pour que la répétition de chaque jour devienne intéressante et que ça devienne un plaisir, quoi, que ça devienne une joie de chaque jour. Voilà le thème de la chanson.
C'était à l'instant dans l'émission Dig Dig Diggers des radios de la Ferraroc, le titre légère, un extrait en tout cas de cet album Plays Music pour Satellite Jockey. On en parle avec son auteur Rémi Richard, mais auteur de la composition, tu joues presque tous les instruments, mais pas tous quand même. Tu as tout de même confié les batteries à Florian Adrien, parce que c'est une histoire d'amitié tellement longue que tu peux pas faire autrement.
Oui, bien sûr, ouais. Mais après, le guitariste et claviériste sont mes amis aussi, mais c'est juste que je sais jouer de la guitare et un peu de clavier, et je sais pas jouer de batterie.
Tu as voulu être aux commandes de la plupart des moments de ce disque-là. Est-ce que ça fait pas de toi une sorte de contrôle fric absolu qui fait un peu peur aux autres membres du groupe?
Je leur ai demandé d'abord et puis ils étaient d'accord. Mais c'est juste pour ce disque, après on reviendra sûrement à un truc plus en groupe. C'est juste que j'avais une envie comme ça, puis ils étaient d'accord, donc voilà.
Il y a cette image que tu donnes dans la présentation de l'album, l'idée que l'auditeur serait un petit peu comme le musicien qui vient d'écouter le résultat de la prise pour la première fois. C'est ça que tu avais envie qu'on ressente en tant qu'auditeur, nous autres?
Ouais, c'est pas mal dans le mixage où j'ai essayé de faire ça. J'adore en fait ce qu'on appelle les mises à plat. C'est quand on sort de studio, il y a pas encore, les chansons sont pas encore mixées, on les écoute telles quelles, quoi. Il y a pas encore d'effet dans tous les sens. Et le son est assez doux, assez rond. Et quand j'ai des potes musiciens, qui sortent de studio et qui font écouter leur mise à plat, je trouve ça vraiment super à chaque fois, le son. Parce qu'il est vraiment, neutre, quoi. C'est pas du tout traité. C'est pas du tout compressé. J'ai essayé de m'inspirer de ce son pour mixer ce disque et que ça soit très très doux.
La musique de Satellite Jockey, elle est accompagnée aussi de visuels, aussi de vidéos. T'essayes aussi d'avoir un contrôle le plus grand possible sur ces visuels-là, sur ces graphismes-là?
Ben, je me suis inspiré de la pochette. On a payé une artiste qui s'appelle Rosalina Burkova pour faire la pochette. Et ça s'est vraiment trop bien passé. J'ai adoré ce qu'elle a fait. Et je me suis dit que j'allais lui demander si je pouvais m'inspirer de ça pour faire un clip, parce que je suis aussi réalisateur de clips. Et puis elle était d'accord, et je trouvais que ça marchait bien. Du coup, c'est un peu toute l'esthétique du disque qui tourne autour de ses couleurs et de ce graphisme.
La couleur, tout l'agencement est très très léger, très très sautillant, hein, comme je trouve la musique de Satellite Jockey. J'ai l'impression qu'il y a une envie d'aller vers des sons, il y a des sons de nature aussi qu'on entend pas mal sur l'album. Est-ce que ça t'a beaucoup inspiré aussi, la nature, pour ce disque-là?
Bah, j'ai toujours fait ça sur tous les disques. J'ai mis un peu des petites ambiances. J'aime bien faire des albums qui sont un peu comme où il y a un peu une narration. Ou en tout cas, où on s'imagine une narration, comme un voyage ou comme un film, et de mettre des sons qui sont extraits du monde réel, je trouve que ça fait marcher l'imagination. Et c'est des sons qui sont aussi très musicaux, qui se mélangent bien à la musique, je trouve. Donc c'est pour ça que je fais ça, ouais.
L'album Plays Music de Satellite Jockey se termine par le morceau Recipe, qui moi m'a fait penser, s'il y avait peut-être quelques violons en plus, me faisait peut-être penser à l'ambiance que peut avoir la chanson Good Night des Beatles. Est-ce que c'était ta manière aussi de souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves aux auditeurs de l'album, cette chanson-là?
Ouais, bah c'est la petite chanson de fin, un peu calme, ouais. J'avais pas pensé à Good Night en la faisant, mais ouais. Il y a un petit côté comme ça, ouais. C'est une petite chanson d'au revoir. En fait, cette chanson, c'était C'est une démo que j'ai mis telle quelle sur le disque.
Et là, on est vraiment à la place hein, du créateur et on écoute la chanson comme si on venait de la faire soi-même, quoi.
Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Exactement.
Satellite Jockey. En live, ça sera pas juste Rémi Richard, mais évidemment, vous serez tous ensemble pour les concerts. Ça va commencer la tournée autour de cette sortie du nouvel album Plays Music.
Ça sera en juin, ouais. On commence début juin. On va jouer à Paris, notamment. Paris, Grenoble, une date vers Vendôme. Et puis, en août, on ira jouer en Normandie.
On vous donnera bien sûr hein, toutes les dates sur vos radios Ferrarock, les dates de la tournée de Satellite Jockey. Je vous rappelle que l'album est sorti le 1er mars pour le label Another Record, qu'on parlait avec Rémi Richard, qui joue tous les instruments, presque, pas la batterie, sur l'album. On termine avec, non pas Recipe que j'évoquais juste avant, mais avec ce morceau Bright Moon, un des seuls titres en anglais en fait, il y en a que deux finalement. Et ce sera la fin, il n'y en aura plus sur le prochain album ou tu peux pas être
si,
aussi
si, pourquoi pas, ouais, ouais, ouais. J'ai bien aimé écrire ces morceaux en anglais aussi parce que je me suis dit que c'était possible aussi d'écrire en anglais si les paroles sont simples et si j'assume d'avoir un accent français. J'assume aussi qu'il y ait des fautes d'anglais, il faut juste pas trop faire compliqué, je pense. Voilà, c'est ce que je me suis dit.
On va voir si c'est si compliqué ou pas, mais en tout cas, on termine avec ce morceau Bright Moon. Merci beaucoup, Amy, et longue vie, bien sûr, à Satellite Jockey.
Eh ben, merci à vous. Merci.
Dig Dig Diggers, l'émission hebdomadaire des radios de la Ferrarock, c'était une présentation de l'album Plays Music du groupe Satellite Jockey, sorti sur le label Another Record le 1er mars. Retrouvez toutes les infos et réécoutez cette émission sur ferrarock.org.
Dans le nouveau disque de Crème Solaire nommé Cemento ou Ciment en français. À ne pas se méprendre, ce disque n'est pas un hommage au béton, mais plutôt aux plantes qui parviennent à se frayer un chemin malgré le macadam. On en découvre un peu plus sur cette poésie absurde et révoltée avec Ricardo de Fréquence Mutine.
Yeah. Et bonjour à toutes et à tous, c'est Ricardo de Fréquence Mutine qui vous parle et tout de suite on vient de s'écouter Red Flag de Crème Solaire. Crème Solaire, c'est électropunk, pop, glitch, hop, trap, expérimental, techno, qui lutte contre les conventions. Crème Solaire, c'est un duo suisse composé de Rebecca à la voix et au texte et Pascal aux instruits. Ils sont avec moi aujourd'hui. Et Crème Solaire, c'est bien sûr Cemento, ce troisième album que nous vous présentons aujourd'hui. Alors déjà, bonjour Rebecca, bonjour Pascal, comment ça va ?
Bonjour, hello, ça va plutôt bien, merci. Tout bien ici.
Super, alors déjà, on peut commencer dans le vif, c'est pas votre premier album, hein. Il y avait l'album Bleu c'est bien en 2019, l'EP Bébé point d'interrogation en 2020, le LP Pannenstreifen ist ohne Picnic, je sais pas comment on prononçait, en 2021 qui veut dire bande d'arrêt d'urgence, c'est sans pique-nique. Et puis évidemment des concerts, vous vous êtes forgé une réputation live assez, assez ouf. Alors le thème de ce nouveau projet qu'on va disséquer au cours de cette interview, c'est bien le ciment, le cemento, c'est les plantes aussi qui malgré tout poussent dans ces failles. C'est la résistance, la nature, l'être humain, c'est une idée qui apparemment aurait germé au printemps 2023. Alors d'où vous vient cette idée, ce concept de projet ?
Alors déjà avec nos autres albums, aussi la bande d'arrêt d'urgence, c'est son pique-nique, on avait déjà des thèmes d'autoroute et de voitures à toute vitesse et de policiers, policières. Donc l'idée du béton était déjà plus ou moins une thématique courante dans nos textes, dans nos histoires. Et on avait envie de faire un album qui racontait cette image de ces fleurs qui traversent le béton, de faire des hymnes qui puissent transpercer, qu'on puisse être plus ensemble dans une direction plus jolie.
D'ailleurs, on voyait déjà aussi cette image dans le single Cali Canti que vous aviez teasé, ce qui était sorti le 12 janvier 2024 avec un clip... on va dire en 3D avec justement ce béton qui se fissure et qui se fait traverser par toutes sortes de plantations. D'ailleurs, c'est quoi c'est une question, c'est quoi les Calicanti ? C'est une plante ?
C'est des fleurs, ouais, c'est des fleurs jaunes qui poussent en hiver, qui sont connues pour être assez résistantes.
Ah, ok. Alors, on vous connaissait très punk, et ce nouveau projet, je trouve qu'il est, il y a une nouveauté un peu encore plus pop et plus catchy et plus dansante. Est-ce que ce nouveau projet, vous avez voulu vous renouveler, ou alors est-ce que c'était plutôt dans la continuation de ce que vous aviez fait auparavant ?
Je dirais que c'est un peu les deux. On a un peu changé notre manière de faire avec cet album, on a pris beaucoup plus de temps de choisir les sonorités, écrire les textes, mettre ensemble le tout, alors que les albums passés, on les a fait très rapidement, souvent en one shot. J'avais fait les instrus et Rebecca a écrit un texte et en une prise, on a un peu mis ça ensemble, quoi. Et puis là, on s'est dit qu'on aimerait plus prendre le temps, plus réfléchir. Et du coup, il y a un peu... Ouais, c'est devenu un ensemble un peu plus pop, plus chanté, malgré que les instrus sont un peu plus, peut-être plus agressifs, techno, rapides. On s'est dit qu'on pouvait essayer de peut-être trouver un contraste et d'adoucir tout ça avec les mélodies un peu catchy.
Ouais, aussi dans les thématiques, les autres albums, il y a une plus forte, un peu violence, de moments où on est fâché, des choses où on n'est pas d'accord, on n'est pas contente. Et cet album aussi dans les paroles, dans les intentions des morceaux, il y a aussi beaucoup de envie d'être plus ensemble, unis et d'en faire quelque chose. Et je pense que ça ajoute aussi quelque chose de plus pop et plus accessible musicalement.
Et est-ce qu'on peut revenir justement un petit peu sur votre processus de création ? Ça se passe comment quand vous créez un morceau ? Comment ça se passe ?
Souvent, on a un moment où, tout début, où on parle de notre intention principale, donc notre but de qu'est-ce qu'on a, enfin pourquoi on veut faire de la musique, c'est quoi la chose qu'on a besoin d'exprimer à travers ça. Et du coup, on se met d'accord sur ce fil rouge de ok, moi je sens j'en suis là, toi t'en es où et tout ça. Et après ça, Pascal va dans sa cave et produit 10 000 prods, toujours bien rapide. Et moi, je prends beaucoup de trains et je écris plein de notes, de plein de, d'histoires à raconter. Et puis après, on fait un peu des résidences où on met tout ça ensemble, où on, justement, on découvre moi les textes et Pascal les prods. Et c'est souvent à partir de la prod que du coup on court par-dessus les éléments.
Senza movimento, la palude t'encastre. Senza pavimento, i fireflies in orchestre.
Alors pour celles et ceux qui connaîtraient pas très, qui vous connaîtraient pas très bien, vous faites souvent remarquer quand même par l'abondance des langues utilisées. Il y en a, je crois qu'il y en a 5 dans, vous parlez en 5 langues dans votre album. Vous pouvez les énumérer, les langues que vous utilisez en général dans vos morceaux?
Alors il y a beaucoup de français, d'italien, il y a de l'allemand, il y a du rétro-romanche, il y a de l'anglais et il y a 2 mots en espagnol.
Ah,
on
ne
peut
fou.
Pas compter, mais et, qu'on énumère quand même.
Et il vient d'où, du coup, ce rapport à la langue pour vous?
C'est une réalité qu'on vit. Moi, j'ai grandi en italien. Et après, j'ai déménagé dans la partie francophone de la Suisse. Ensuite, étudié dans la partie germanophone, étudié en anglais. Donc, c'est une réalité que nos cerveaux... fonctionne dans ce plurilinguisme un peu. Parce qu'elle aussi peut-être
moi j'ai grandi à Fribourg et c'est un peu une ville où on parle les deux langues, plutôt le français mais aussi le suisse-allemand justement, et chez nous à la maison on parlait un dialecte qui s'appelle le bolt, qui mélange les deux. Donc dans une phrase on peut trouver du français et de l'allemand en même temps. Et après, je sais pas, j'ai appris l'anglais à l'école, et puis voilà, donc c'est 3 langues.
Et aussi l'italien, t'es quand même très à l'aise.
Et est-ce que du coup, le fait d'enregistrer en toutes ces langues, c'est bon, ça fait partie, on l'a compris, de votre manière de faire les choses, mais est-ce que vous n'avez pas peur que du coup, il y ait une partie de votre message qui puisse des fois échapper à des gens, parce que c'est rare quand même, les gens qui parlent toutes ces langues.
C'est vrai. Je crois que ça, des fois ça nous arrange parce qu'on peut y mettre plus de... Dans un morceau, on peut y mettre plein de secrets et jouer avec différents niveaux, de autant de moments d'absurde, autant de la poétique dans la prononciation, dans la manière de dire les mots des différentes langues, autant avoir des phrases très claires, très compréhensives. On utilise souvent le français quand même comme langue principale. Ou l'italien, et du coup ça nous permet de jouer avec plusieurs couches un peu de sens ou comme ça. Donc pour nous, ça, en tout cas pour moi qui écris les textes, ça me permet vraiment de déstructurer et puis de jouer beaucoup plus avec cet outil-là.
Et puis c'est vrai que d'un côté plus pratique, ça vous donne aussi quand même une portée assez internationale. D'ailleurs, vos fans, vous avez sûrement une fanbase quand même, ils sont comment vos fans? C'est qui vos fans?
Ma grand-mère, ma grand-mère, et sinon pas mal en Suisse, du coup beaucoup chez les Suisses allemands, alors qu'il n'y a pas tant que ça de l'allemand dans les chansons, où c'est très mal parlé parce que je le parle très mal. Sinon un peu Italie, France, Allemagne, je dirais que c'est un peu les pays qui nous entourent où on joue le plus. La Belgique aussi. Je pense que la Belgique a aussi son lien ou son habitude avec ces doubles langues, ces contextes de petits pays particuliers. Je pense qu'il y a aussi un truc avec ça.
Si on devait résumer un peu grossièrement la vibe, on va dire, de l'album au niveau des textes, est-ce que moi j'ai ressenti une sorte de message presque d'espoir, un petit peu, c'est assez positif au final comme message que tu fais passer à travers tes textes.
Ouais, alors on essaye. c'est drôle parce que nous on a enregistré tout l'album un peu convaincu de ça, en se disant ah mais on est plein d'espoir pour ce monde, ça pourra aller mieux un jour. Et puis là, en réécoutant l'album, dès qu'on a reçu le vinyle imprimé, d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y a aussi avec toutes ces différentes couches et ces contrastes avec ces sons, ces textures, ces sonorités, et puis que certaines phrases qui ressortent, qui viennent quand même de quelque chose de plutôt du désespoir, plutôt d'être complètement perdu dans le monde et de pas comprendre et de s'enfuir ou bien de plus savoir comment faire. Et du coup, on trouvait intéressant qu'on ait parti d'avoir cette sensation que c'était un message que positif de être plus d'une manière collective vers un monde meilleur. Et puis en même temps, en réécoutant et puis aussi de voir le live, de se rendre compte qu'on n'en est pas encore là, il y a encore du boulot pour que l'espoir puisse être effectif dans la vie et dans la société qui nous entoure aujourd'hui.
Est-ce que vous avez évolué aussi dans votre manière de concevoir les instrus avec cet album, ou alors en vrai, est-ce que sur les instrus vous êtes resté sur vos valeurs sûres qu'on avait pu entendre dans les choses d'avant?
Alors pour cet album, on a travaillé beaucoup plus précisément. On s'est pris, en fait, après que j'ai fait les instrus, on s'est pris une semaine entière avec notre ingénieur du son pour vraiment peaufiner chaque élément de A à Z. Et puis on a vraiment passé une semaine entière à être enfermé dans une cave en train de tourner des petits boutons de compresseur qui, je pense, selon l'oreille normale, n'entendrait même pas la différence. Mais nous, on a bien aimé faire ça et on a bien trippé. Et puis au final, je trouve que c'est des instrus qui sont plus, pas vraiment propres, mais plus travaillés.
Mais justement, c'est marrant, ça me fait penser à ce paradoxe un peu qu'on a. Bah, y a souvent ça avec les groupes très, très vénères, on va dire, violents, et qui quand même ont un son hyper travaillé quand on y pense. Ça me fait penser à ce paradoxe d'utiliser des sonorités quand même vachement modernes, numériques, industrielles même, avec de l'autotune et tout ça, alors que ce que vous évoquez, c'est beaucoup quand même l'humain et la nature contre, on va dire, ce monde aseptisé, bétonné. C'est assez paradoxal au final. Est-ce que vous faites ça volontairement?
Je crois qu'il y a une volonté de, là aussi, créer des contrastes. C'est des éléments aussi qu'on trouve intéressant live, justement, ce côté industriel, ce côté fête, quand on comprend pas bien les mots, c'est aussi très festif. Et donc de contraster ça avec l'aspect performatif et de jouer les instruments live, qui là, pour le coup, montre quelque chose de beaucoup plus naturel. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de... Enfin, pendant les concerts, on court, on saute partout, on va dans le public, on se casse la gueule. Donc là, il y a un côté vraiment beaucoup plus naturel, lâcher prise et un peu random dans plein d'aspects. Du coup, on a l'impression que ce côté un peu tech, autotune, qui contraste avec des corps qui bougent et qui disent n'importe quoi, bah, ça remet au centre le message principal des différentes thématiques et des différents personnages qu'on utilise dans les différentes chansons.
Alors j'ai deux, trois questions bateau que je peux pas m'empêcher de poser, évidemment. Mais pourquoi vous appelez Crème Solaire? D'où il vient le nom?
C'est une bonne question. Je sais pas trop. Pascal, tu dirais quoi comme réponse?
De base, ça nous est venu un peu comme ça, parce qu'on devait chercher un nom de groupe, quoi. C'est un peu nul comme réponse, mais c'est comme ça. Et puis par après, on s'est dit qu'en fait, ça colle plutôt bien, parce que c'est... La crème solaire, c'est quelque chose que, à la fin, on aime bien parce que ça nous rappelle les vacances, mais de l'autre côté, ça colle, ça pue et ça pollue. Du coup, c'est de nouveau un jeu avec les contrastes. Avec notre musique qui est plutôt perçue comme peut-être violente et agressive, mais qui a quand même des moments de douceur où on a le droit de pleurer, on a le droit de crier. Ouais, c'est un peu ce jeu de avec les contrastes.
Et surtout crème solaire, comme ça on peut faire des tubes.
Des tubes. Ouais, c'est pas mal ça. Alors, d'un point de vue technique, c'est quoi la suite? Déjà, où est-ce qu'on peut retrouver votre disque? Sous quel format il va sortir?
Alors, notre disque est disponible. Il sera un vinyle imprimé. Il sera aussi sur toutes les plateformes. Le vinyle, la pochette, elle est trop belle.
Ah ouais?
Donc, pour le commander sur notre Bandcamp. Ouais, on a une page Bandcamp qui s'appelle Crème Solaire et où on vend le merch. On a fait aussi du merch trop beau avec la typo qui a gonflé, un peu un effet bizarre. Du coup, vous pouvez aussi commander du merch. Et sinon, on va venir jouer en France bientôt. Pour venir aussi sur Insta, comme ça, vous avez toutes les updates.
Bah oui, Crème Solaire sur Instagram.
Bah pour certains concerts cet été, on va faire des créations spéciales pour des festivals où on va jouer. Et je crois que ça, c'est un peu nos deux prochaines années qui suivent. Ça va être jouer à fond et rencontrer plein de 1000 personnes et plein de bonnes têtes qui ont envie de se plonger dans notre univers et avec qui on aura trop de plaisir à partager ça.
Magnifique, on va suivre ça de très très près. D'ailleurs, tu parlais de clips, il y a d'autres clips qui sont prévus pour l'album dont on peut parler, ou alors c'est encore secret?
Oui, il y aura un clip qui va être qui va sortir mais je sais plus exactement quand. Je crois que c'est en mai, et qui sera un clip réalisé par un ami qui vit en France, et je pense que ça va être super.
Est-ce que vous avez un petit message à faire passer au public français?
Salut la France. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Je sais pas. La protection, c'est important.
Le message de Crème Solaire, la protection, c'est important. Ben oui, merci beaucoup à vous, Crème Solaire. On va suivre avec beaucoup, beaucoup d'attention tout ce qui se passe. Et puis, on va se précipiter pour aller écouter, évidemment, ce magnifique projet. Et je vous laisse tout de suite avec le reste de l'émission. Merci beaucoup pour votre écoute et merci beaucoup à Crème Solaire pour leur super interview.
L'objet vient de Lille. Initialement formé en trio en 2003, l'étau se resserre autour de Julien Arpagès et Arnaud Boulogne pour la sortie de leur disque Slalom.
Nous recevons le duo lillois L'Objet pour une interview. Elles ne sont pas pléthores, leurs prises de parole, pour parler de leur musique. Nous avons dans les studios Arnaud Boulogne et Julien Arpagès.
Merci Max de nous inviter et bonjour à tous les auditeuristes. On est ravis d'être là.
Oui, moi aussi je dis juste merci à RCV, merci Max et merci à tout le réseau Ferra, c'est ça ?
Ferra Rock, tout à fait. Tous ceux qui nous écoutent à travers la France entière. Vous n'êtes pas forcément très bavard, peut-être moins bavard dans les médias que vous l'êtes en musique, puisque vous êtes productif, en studio comme sur la scène. Vous faites parfois rare, ça semble même être assez révélateur de votre manière d'être. Faites attention à ça.
On est de nature discrète, peut-être. Il y a déjà de ça. Et puis, dans notre façon de produire, d'avancer, on se fait discret aussi, c'est vrai. Voilà, peut-être un peu quelquefois par la force des choses, mais c'est peut-être aussi quelquefois un choix. Il y a un confort aussi à avancer discrètement.
Oui, tapis dans l'ombre. Mais on fait des choses dans l'ombre. On en fait plein, c'est vrai. À notre rythme aussi. On travaille à notre rythme. On est peut-être un peu lent par rapport à d'autres, c'est possible. Mais en même temps, cette lenteur est inhérente aussi à une forme d'exigence. Alors bon, ça fait toujours un petit peu prétentieux de commencer à lancer. Oui, en exigeant, peut-être pas plus que d'autres. Mais du moins, on est concentré là-dessus quand même. On est un peu impitoyable avec nous-mêmes, il faut le reconnaître. Ça génère de la lenteur, quand même, aussi. Et puis, après, il faut être honnête aussi, hein, je veux dire, on n'est pas sur-sollicité non plus, quand même.
Ça fait longtemps que vous êtes actif depuis 2006, le groupe L'Objet, alors le groupe à géométrie variable, désormais définitivement duo, je pense qu'on pourra le dire.
C'est pas définitif, je pense.
C'est la formule du moment qui, oui, c'est arrivé un peu comme ça, c'est pas tant un choix. Un matin, on s'est levé, on s'est appelé avec Julien en disant « Non mais en fait, il faut qu'on joue en duo, c'est plus compliqué que ça. » Olivier, qui nous accompagne toujours en live, est quand même un accompagnateur, parce que les disques, depuis quand même un moment, on les enregistre à deux avec Julien. Et ça a toujours été un grand plaisir, et aussi, ça a été aussi assez...
C'est fructueux
de jouer avec Olivier, c'est pas rien de le dire, mais après c'est pour d'autres raisons, disponibilité, tout ça, machin. À ce moment, il y a quelques mois, on avait un vrai besoin d'avancer, il s'avérait qu'à deux, on pouvait clairement avancer, et puis ça a fait qu'on s'est mis à envisager de jouer à deux notre dernier disque, Slalom.
En fait, les influences, j'ai l'impression qu'elles mettent du temps à nous inspirer. En fait, comme le processus créatif entre guillemets est long, c'est vrai qu'il y a par période, on écoute de la musique ensemble, on se fait entre guillemets découvrir des disques l'un l'autre. Du coup, j'ai l'impression, moi, en réécoutant ce qu'on fait, que les influences sur un morceau, elles viennent du moment où on l'a composé. Et puis si on passe au morceau suivant, on se dit tiens, celui-là, on l'a fait peut-être, on l'a pensé quelques mois précédemment.
C'est vrai que les influences qui infusent, souvent on les repère a posteriori. Ça fait partie de l'exigence dont je parlais tout à l'heure, où on crée comme des tas de gens, de manière assez spontanée, de manière ludique, on se laisse aller. Il y a un côté artisanal, slash plaisir, jeu, tu vois, dans la création musicale. En tout cas, c'est ce qu'on ressent, je crois. Et puis, après coup, souvent, moi, je m'aperçois qu'on peut se dire, mais à un stade avancé de la création, oh tiens, dis donc... Et ça te fait penser à rien en fait là. Ah ouais. Donc tu vois, c'est jamais conscient. Ça c'est repéré souvent après coup. Et la plupart du temps, quand c'est repéré, eh ben le morceau il se retrouve de côté, puis il n'est pas sur le disque au final.
Dans ces cas-là, il a moins de valeur pour vous, c'est ça?
Ben ouais.
Vous avez tranché aussi dans Slalom votre nouveau disque avec justement un retour à des choses composées et des formats peut-être un peu plus courts. Vous êtes connu, reconnu, il y a pas mal de gens qui vous parlent encore de Monorail, un titre long que vous aviez enregistré il y a maintenant une douzaine d'années.
Disons que le précédent, c'était vraiment l'idée de retranscrire ce qu'on faisait en live. Justement avec Olivier depuis un an ou deux, quoi. Enfin avant l'enregistrement. Du coup, on était allé en studio, on avait joué le jeu de jouer live, de faire juste deux prises de chaque morceau. Et voilà, de laisser une place à l'improvisation en studio. Donc les morceaux s'étiraient, un petit peu comme on le fait en concert, parce qu'en concert on peut se le permettre, quoi. Et peut-être que là, dans Slalom, l'idée de remettre des morceaux plus courts, c'était peut-être en réaction un petit peu au disque d'avant, quoi. C'est-à-dire, on commence quand même le nouveau disque par un long morceau de 10 minutes, et après, il y avait peut-être l'idée de faire un contrepoint avec des morceaux courts, ouais. Mais ce côté vintage, t'as un peu raison. Alors quand tu parlais du mixage, justement Planck et Toucan, le suivant là qu'on avait fait en gros en 2011 et 2015, c'est vrai qu'on avait beaucoup mixé nous-mêmes sur ordinateur, en utilisant des plugs, etc. Enfin, en essayant de produire quand même quelque chose, de soigner vraiment la production. Et là, l'idée sur ce disque-là, c'était de lâcher un petit peu prise là-dessus et d'avoir un son un peu plus brut, quoi. Et on a laissé un peu plus Théophane Berthuis, avec qui on travaille pour le mastering depuis plusieurs années, s'occuper aussi du mixage lui-même, quoi. Voilà, donc à mon avis, ou à mon sens en tout cas moi, il est un peu moins produit avec les guillemets, je veux dire, avec des guillemets.
Est-ce que vous pouvez nous en parler, ça, justement aussi, de ce plaisir que l'on ressent à collaborer avec des gens avec lesquels vous partagez un plaisir, celui de la musique?
Tu veux dire le plaisir qu'on ressent à jouer l'un et l'autre avec l'autre depuis 20 ans? Ah ben écoute, donc c'est le moment où je déclare ma flamme à Julien Arpajès. Il fallait donc que ça se fasse de manière publique.
C'est émouvant, je t'avoue que c'est émouvant.
ça l'est toujours. Mais ce qui est important, c'est que ce soit sincère. C'est une chance, ça va pas de soi de rencontrer un partenaire avec qui, à la fois humainement, on peut s'entendre suffisamment pour que ça s'inscrive dans la durée, mais aussi et surtout que ce soit clairement associé à une connivence artistique, musicale, de goût. Comme ça, ça a l'air simple. Enfin, quand je prends conscience de ce qui nous lie à Julien sur ce terrain-là, c'est simple, mais en même temps, franchement, c'est fondamental. Et je trouve ça beau, et ça va pas de soi que ça ce soit encore le cas depuis 20 ans. Donc ça, c'est le terreau qui permet la fertilité de notre collaboration et des résultats inhérents à celle-ci. Et c'est la base de la base de la base. Après, cette durée comme ça dans le temps, ça passe aussi par un renouvellement de ce qu'on écoute. Il y a une curiosité. Julien m'a fait découvrir des tas de trucs depuis 20 ans, il faut bien être honnête. j'espère que moi aussi de temps en temps, c'est même sûr, enfin bref, on creuse aussi notre côté, on a un côté digger si tu veux, à avoir besoin, mais là c'est vraiment comme mélomane, comme passionné de musique, à avoir besoin de retrouver le plaisir de découvrir des trucs, et ces trucs, on rejoint ce dont on parlait tout à l'heure, vont infuser dans nos goûts, vont renouveler notre plaisir de « Ah bah tiens, maintenant je veux faire du synthé, maintenant, attends, je vais essayer de faire de la batterie, mais en jouant un peu de clavier comme ça d'une main. » Enfin, c'est vrai que d'autres artistes nous donnent envie de faire les choses un peu autrement, ça nous stimule.
Qui a apporté justement à l'accompagnement du disque, mais même à la réalisation du artwork. Il faut qu'on en parle parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Je pense que quand on est amoureux des disques, on a le souhait de ne pas sortir son volume dans une pochette à la con. Et donc ça, c'est quelque chose aussi que l'on vous reconnaît, c'est-à-dire que notamment le dernier, Slalom, une pochette très très jolie.
Alors, est-ce qu'on dévoile de quelle manière on a pensé cette pochette, Arnaud ?
Je te donne carte blanche, Julien.
La question c'est, est-ce qu'on le cite ce film ?
Bah oui, j'ai bien compris. Moi, ta carte blanche.
C'est The Sun Chaser de Michael Cimino.
D'accord.
C'est à la fois la typo du générique de The Sun Chaser de Cimino, qu'on adore. Hein. On va faire une parenthèse. On est des fans, et moi en particulier inconditionnel du cinéma américain des années 70, donc comment ne pas citer Michael Cimino. Et donc c'est la typo du générique en effet. Ouais, c'est une pleine image, bon, vaguement recadrée. Mais bref, oui, c'est vrai que le cinéma américain des années 70 semble être une source d'inspiration graphique chez nous. Voilà.
Nous allons terminer cette interview avec peut-être un rappel. Donc le duo L'Objet, votre disque s'intitule Slalom. Il est paru en mars 2023 sur le label Structure.
Notre micro-label.
Tout à fait. C'est votre micro-label. Hein.
Ouais.
D'accord. C'est notre micro-label. On a la main sur tout ce qu'on fait. Par la force des choses, certes, mais quand même.
C'est un micro-modèle économique, mais il nous va bien.
C'est sorti au format physique, chose que vous affectionnez beaucoup, mais aussi digital, il ne faut pas le négliger. On le retrouve donc dans toutes les bonnes épiceries de la région, mais au-delà, je pense que vous le distribuez un peu partout, là on vous le demande. Chez les disquaires indépendants, en tout cas, ça c'est une marque de fabrique de L'Objet.
Ouais, c'est en cours. Ça c'est un gros travail qu'on doit aussi faire nous-mêmes. Et on ne vit pas de la musique, donc on fait ça le week-end.
Et rappelons donc la page Bandcamp de L'Objet, c'est L'Objet sans apostrophe.
C'est ça, c'est L'Objet tout attaché .bandcamp.com.
Tout à fait, merci beaucoup messieurs.
Merci à toi Max.
Merci à toi et à vous, au revoir.
Au revoir.
L'émission des radios Ferrarock. Yann de Canal B présentait Plays Music par Satellite Jockey, sorti le 1er mars chez Another Records. Ricardo de Fréquence Mutine était accompagné de Crème Solaire pour nous parler de leur troisième disque, Cemento, à paraître le 22 mars chez Irascible Records. Max de la radio RCV à Lille s'est saisi de la carte blanche cette semaine pour présenter Slalom, nouvel album du duo L'Objet. Pour réécouter cette émission et en savoir plus sur les artistes soutenus, rendez-vous sur www.ferrarock.org.